Ladies and gentlemen, let me start with today's seminar. Unfortunately, I have a bad news for all those who want to have a translation, because the working language will be English, and I'm sorry, we were not able to provide a translation. So who is not able to express himself in English is, I would say, democratically entitled to use any other language, but not everybody will understand. So let's go that way. I'm very glad that we got a panel. Yes, in French, yes. A panel of very distinguished people, and I'm also very glad that I'm seeing here a couple of distinguished members of Parliament. Let me particularly greet Madame Eva Joly, the chairman, the president of the Committee for Development, a very important body for our topic of today. Maybe I would say in advance only, this is not a seminar, this is not a conference against anybody. It is the meeting of the people who want to be pro something. We want to spread the message of the freedom, of human rights, of democracy, of respect for the international law. And in these all respects, the topic of West is quite an example of how a problem which lasts for several decades already can become worse and worse if it is not dealt with actively, if everybody who is involved in does not take its responsibility. I would like to underline in this respect the responsibility of European Parliament and European Commission. We should take an active role in trying to solve the problem. We should spread a message to everybody to improve the situation in Western Sahara as regard on the human rights and I would say humanitarian catastrophe which might occur if the problem will not be dealt with the due responsibility. And we invite also those who are more a part of the problem for the time being than a part of solution to cooperate in good faith. So the organizers of this meeting, besides of myself and my colleague, Romeva Irueda, Raul of the Greens, I am a member of the Parliament of the ALDE group from Slovenia, is also the Western Sahara Resource Watch. I am thanking their representative for what they are doing. They are very active, they are pushing us, and we accept to being pushed into this debate. I think that would be for the beginning. Maybe I should say also that as this initiative was started, the fishery agreement was in the grow plan, as one may say, as the focus point. The things which happened in Western Sahara in the last weeks and months actually put also our debate in a different light and push us also to take more responsibility in the European Parliament for the solution of the actual problem, which is a political long-standing problem, and we are going to talk about it today. The fishery agreement is just one piece of the problem, could be also one piece of the solution, if we decide to pursue the way which has been given to us as a protagonist of the international relations and the relations with the certain states. So I will finish here and give the word to my co-chairman, Mr. Raul Romeva Hereda. Thank you.
Thank you, Ivo. Actually, thank you, all of you, for being here. Unfortunately, we cannot manage with all the languages that we expected, but I will try to use both English and peut-être je vais parler aussi en français. C'est la langue que Aminetto va utiliser aussi normalement. Tout d'abord, une très brève introduction. Quand on a commencé à faire l'organisation de cette, disons, conférence, évidemment, on n'avait pas prévu qu'on la ferait dans ce contexte. Donc, l'idée, c'était de parler de l'accord de pêche et de la, disons, du débat qu'il y avait autour de, du renouvellement de cet accord. La situation a changé, dramatiquement changé. Évidemment, le contexte est tellement important qu'on ne peut pas le nier. Donc, c'est ça que probablement mène beaucoup d'entre vous d'être parmi nous. En tout cas, on trouvait que c'était plus nécessaire que jamais d'insister sur le sujet. Parce que le vrai problème que nous devons mettre sur la table, c'est cette, permettez-moi de le dire, incompréhensible silence et complicité de l'Union européenne telle qu'elle et de certains États membres spécifiquement. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça qu'il faut dire qu'est-ce qu'on veut. On veut parler des commerces, on veut parler des droits de l'homme. Donc la conférence aujourd'hui, je trouve qu'elle est absolument bien placée. Je remercie les trois speakers d'être parmi nous. Évidemment, notamment, permettez-moi de dire à Aminetto, parce que je sais, on sait tous, qu'elle est en train de faire un travail vraiment important de parler haut. Et c'est pour ça que nous apprécions beaucoup sa présence. Deuxième chose que je veux dire, ici, à la table, c'est Ivo et moi-même. Je veux dire qu'il y a des parlementaires d'autres groupes qui sont aussi très impliqués dans la cause. Je vais mentionner, si vous me permettez, Willy Meyer, qui a été malheureusement empêché de visiter les campements quand il y allait il y a quelques jours. Il y a certains d'autres collègues, comme je ne vais pas les mentionner tous parce qu'il y en a plusieurs, mais des différents groupes, est-ce que ça m'intéresse. Et en tout cas, si vous voulez aussi après, vous avez la possibilité de les interviewer. La troisième chose que je veux dire, je veux rendre hommage à Western Sahara Resource Watch, parce que c'est à son initiative qui, en fait, sont eux qui ont poussé pour faire ce débat, sont eux qui ont travaillé pour avoir, avec le bureau d'Ivo et moi-même, pour avoir cette réunion-là. Et donc, permettez-moi de faire une petite annonce, très petite, très brève. Sur la table, vous avez un petit dossier, un petit document où vous pouvez vous participer à rejoindre l'initiative de Western Sahara Resource Watch. Et finalement, très brièvement aussi, avant de passer la parole à mes collègues sur la table, je voudrais demander à une autre collègue, c'est Eva Joly, c'est la présidente de la commission de développement qui a été parmi les promoteurs de pas seulement de la résolution que nous allons discuter dans quelques jours, mais surtout de la position claire que le Parlement doit tenir par rapport au Sahara occidental. Et donc, je sais qu'elle doit partir. Je lui demande de nous diriger quelques mots avant de donner la parole à mes collègues ici à la table.
Merci beaucoup. C'est vrai que la situation en Sahara occidental est tout à fait préoccupante par l'absence de respect des droits de l'homme. Et le dernier événement du 8 novembre complètement dramatique, avec 11 morts, 723 blessés et surtout 159 personnes disparues. Cela ne peut pas rester dans le silence et nous devons nous mobiliser pour les défendre. Mon rôle est de dire qu'il n'est pas possible que l'Union européenne, comme partie contractante avec le Maroc, autorise les navires européens à pêcher dans les eaux territoriales sahraouies. La Commission de développement a demandé une opinion au service juridique interne. Nous avons obtenu cette analyse le 13 juillet 2009 et cette analyse dit très clairement que c'est en violation du droit international que les navires européens pêchent dans les eaux territoriales sahraouies. Lorsqu'un territoire est sous administration, les ressources naturelles doivent être employées dans l'intérêt de la population et non pas dans les intérêts commerciaux ni du Maroc ni de l'Union européenne. Ces accords de pêche viennent en expiration en février 2011 et il est de notre devoir d'empêcher que cette convention soit renouvelée en violation du droit international. Donc la Commission de développement est saisie pour avis de ce renouvellement de convention de pêche. Je pense que mes collègues souligneront bien l'illégalité de la convention telle qu'elle est et nous interpellons également la Commission pour qu'elle mette fin d'ores et déjà à ce scandale. Nous savons par du journalisme d'investigation que les très belles pêches qui sont réalisées face au territoire sahraoui ne servent pas à nourrir la population sahraoui qui en a bien besoin, mais qui malheureusement elle est transformée dans les usines européennes, françaises, suédoises et à l'époque norvégiennes en huile de poisson pour oméga 3 ou pour l'élevage de poissons, ce qui est un autre scandale, c'est que du poisson, des protéines qui peuvent nourrir la population est transformé dans un produit de luxe pour le monde occidental alors qu'il y a une telle souffrance. Donc nous allons porter ce combat aussi loin que possible pour faire constater l'irrégularité de la convention telle qu'elle est aujourd'hui. Merci.
Merci Eva. Permettez-moi d'indiquer une toute petite chose, puisque j'imagine qu'il y aura plein de monde qui voudra faire des questions, qui voudra poser des questions à la fin. On vous demande une petite chose. Tous ceux d'entre vous, parmi vous, qui voudraient faire une question, écrire le nom et la question dans un papier et nous la faire parvenir à la table pour organiser un peu le débat à la fin. Autrement, ça sera compliqué. Je vais donner la parole tout d'abord à mon collègue Carlos Ruiz Miguel. Lui est professeur de l'Université de Santiago de Compostela et en fait, parmi ceux d'entre nous qui suivons beaucoup la question légale du Sahara occidental, c'est évidemment quelqu'un qui on doit au moins écouter très attentivement. Donc Carlos, à toi.
Premièrement, je vais remercier. First of all, I want to thank the invitation to participate in the European Parliament. It's a great honor for me to be in the democratic representative body of the peoples of Europe. And this building represents precisely the way to understand Europe as a democratic, human rights conscious, political unity. In the past, there were other attempts to get unity of Europe. Some of them were very regrettable. For example, Hitler tried to unite Europe. But what we are representing here in this parliament, what the MPs represent here, is that the unity of Europe could be built upon a different basis, democracy and human rights. The Treaty of the European Union, in its preamble, says that the member states confirm their attachment to the principles of liberty, democracy, and respect for human rights and, fundamental freedoms and of the rule of law. Member States are resolved, according also to the preamble of the Treaty of the European Union, are resolved to implement a common foreign and security policy in order to promote peace, security, and progress in Europe and in the world. And if we go to the provisions of the Treaty of the European Union, in Article 3, Paragraph 5, we can read, in its relations with the wider world, the Union shall uphold and promote its values and interests and contribute to the protection of its citizens. It shall contribute to peace, security, as well as to the strict observance of international law, including respect for the principles of the United Nations Charter. Well, what does the international law say? What does the Charter of the United Nations say? Well, the Charter of the United Nations says that in Article 2 that all member states must build their relations in a peaceful way, without use of violence against others. And Article 1 says that the purpose of the United Nations is to achieve self-determination. This is what the Charter says. The Charter also imposes to administering powers in Article 73 some special obligations according to the colonized peoples. And in Article 74, imposes obligations to all member states, even if they are not administering powers of a non-autonomous territory. So these provisions of the Charter has been developed in the international law through several United Nations resolutions. First of all, Resolution 1514 established an obligation to grant immediately independence to non-self-governing territories. And also, the United Nations resolutions establish economic obligations not only to administering powers, but also to every member state. Among these obligations are the obligations of not to promote any investment or economic activity who can long the occupation, who can consolidate the occupation or the colonization. So, now, let us go to the European Union back. The European Union has two main international agreements with Morocco. The first of all is the treaty establishing an association with Morocco signed in the year 2000. According to this treaty, in Article 2, both parties agree to respect democracy, human rights, and according also to the preamble of this Association Treaty, both parties accept the international law and to attach to the principles of the United Nations. In the preamble of the agreement, of the Association Agreement, both parties, considering the importance of the principles of the United Nations, particularly the observance of human rights, which form the very basis of the association. And if we go to Article 2 of this association agreement, we read that the respect for the democratic principles and fundamental human rights established by the Universal Declaration of Human Rights shall inspire the external policies of the community and of Morocco, and also the domestic politics, and shall constitute an essential element of this agreement. Well, I think that the events that we have just saw, everybody, on television, in the media, is an evidence that these principles are not being respected. And if we go back to this association agreement, we can read in Article 90 that the parties shall take any general or specific measures required to fulfill their obligations under this agreement. If either party, now in the case, the European Union, considers that the other party has failed to fulfill an obligation under this agreement, and I think this is the case, it may take appropriate measures. Well, at this very moment, I don't know any measure at all from the European Union vis-à-vis this international breach of the obligations of the Kingdom of Morocco. Article 93 allows, the European Union allows either party to denounce the treaty. So the question is, what are we waiting for? Because we can say, well, the denounce of a treaty is a very dramatic decision. Well, it could be so. But if we don't want to denounce the treaty, let's go to Article 90. What are the measures taken by the European Union to deal with this situation? The other treaty linking, the other main treaty linking the European Union with Morocco, as all you know, is the Fisheries Agreement. This agreement was signed pretending that it was consistent with international law. Some relevant people here in the European Parliament tried to hide the legal opinion of the Parliament services, declaring that this agreement is illegal. Well, now we have just shown the dramatic consequences of the breach of the international law. The breach of the international law is not just a formal question. It has material consequences. The people who demonstrate in the capital of the Western Sahara, El Aaiún, asked for a participation on the natural resources, on the benefits of the natural resources of their land. So if we don't respect the international law, we must face the consequences, which are not peace, not security, not democracy, not human rights. Thanks.
Okay, then I will give the floor to Francesco Vastagli, who, not more nor less, he was a former Kofi Annan special envoy for the Western Sahara. Thank you.
Okay, thank you very much, Chair. That was very good. It lasted 10 minutes. Mine is a bit longer, but I hope to add something to the discussion. Basically, what has been really presiding over European policy or attitude towards Western Sahara is fairly simple. I mean, if such a thing exists in a cohesive manner. And it's basically been, realpolitik. I mean, if you look at what either individually or collectively European countries, how they looked at the Sahara issue, what really dictated choices was not, compliance with international legality or concern over the human rights of the Sahrawi people, but rather, expediency. And then, of course, there are different considerations that led to this realpolitik. To some countries, or to some, it's a matter of economic interest, as it is the case of Spain in relation to this fishing agreement. As you know, the vast majority of vessels that have access to territorial waters in Western Sahara are from Spain. Sometimes it's a concern over national security. Sometimes, as it is the case of France, is a concern over certain geostrategic interest. You know, France is a priority attention to this Francophone crescent of Western Africa and a very close historic link to the Moroccan, not just the country, but the Alawite monarchy and so on. So there are different considerations that led basically to the same result. One reason why this is so is also that in Europe there is a sort of monopoly for determining the line on Western Sahara, left to a couple of countries, basically, which I just mentioned, in fact. Other countries have been wavering between either collusion or indifference. Every now and then there is some malaise or some reservations expressed. There was the case for the fisheries agreement when Sweden had some reserves, but then the agreement went through anyway. Recently in the Security Council, Austria had some problems. Ireland has been occasionally coming forward with some serious concerns, but the bottom line is when push comes to shove, Europe as a whole and European countries individually have prized expediency and immediate convenience over what really they should stand by according to what we just heard. Now, of course, you see this in different fora. Coming from the UN, maybe I mentioned the UN also because, of course, the paramount responsibility to give to the Sahrawi people their dues rests with the Security Council of the United Nations, which is the custodian of the UN Charter, where there's a whole chapter devoted to the rights of people in non-self-governing territories. Basically, this is an issue of decolonization. That's what this is about. Now, in the Security Council, of course, when it debates periodically Western Sahara, there is a kind of high priest of the Moroccan interest, which is France. France, in the Security Council over the decades, has been making sure that nothing happens that goes against either the immediate or long-term strategic and political interest of the Moroccan agenda. And as we are witnessing yet again major violations of human rights in the occupied territories, this is a topic that is emblematic also of France's attitude. A few months ago, there was a major diplomatic effort by France in the Security Council to have even a reference to human rights in a Council resolution concerning Western Sahara. The two words, human rights, were the object of a major offensive by France to make sure that they wouldn't appear in the resolution. And the resolution would have not asked for any action or decided that the UN should do anything about it. It just acknowledged that there was a problem. This, of course, reflects to my own personal experience very much what I could sense in French. Occasionally I used to go to Rabat to discuss or present my work or discuss our concerns in Western Sahara. The French embassy in Rabat was so emotional about denying even the existence or recurrence of any problem related to human rights in Western Sahara, that was appalling to me. For the red faces with which the existence of these problems was denied, even more, I would say, emotional than the Moroccan Interior Ministry almost. Now, France has been, I would say, the main point country in relation to these matters in the UN, but of course others bear responsibility. France has this role also because as a permanent member of the Council has a particular influence on these proceedings. But other countries, and we'll see this in the General Assembly when the fourth committee of the General Assembly discusses decolonization, which again is the issue of Western Sahara, there's a very bland and anodyne presence of Europe. And even now, in fact, if today, as you may know, the Security Council will discuss the latest developments in Western Sahara, it will be at the request of Mexico. The EU, you find the same, let's say, mood or environment. In the European Union, what I found most striking in recent months has been the event in Granada where, you know, for first time since the Lisbon Treaty, I think, the EU engaged with a country on, you know, advanced status, and it was a big hullabaloo about the groundbreaking nature of this gathering, high-level session between the European Union and Morocco. Now, if you read the outcome document of that session, you will see that there is a very little pathetic reference in one opening paragraph to the fact that the EU and Morocco agree that the Western Sahara issue should be resolved within the context of ongoing negotiations sponsored by the UN. I mean, this is an almost 30-year-old story. And that's it. Then they get rid of the concern, and then there's a whole 7 or 8 pages about human rights, about what the Europe expects to go to make an even closer partnership with Morocco, which, you know, is already extremely close. I mean, Morocco is the greatest beneficiary of European assistance in the region and all the rest. So there is no mention whatsoever, even on several paragraphs on human rights. Never, ever, the European Union felt the need to elaborate a bit on some concern or situations of the illegal occupation of the territory, violation of human rights, denial of basic rights and entitlements of the Sahrawi people. And that mood, in a way, you still sense it in Europe. I was reading the day before yesterday the declaration of Lady Ashton related to what happened over the past 2 weeks in the territory. I think it's bland, it's a pretense. It just tries to say that basically there are two parties that are urged to be moderate and not to upset something that doesn't exist, that is a process of pacification that is not there, as if putting on the same plane, you know, a repressive regime that is controlling and dominating a population and the Pacific and the poor victims of such repression. And they are put on an equal basis in a press release that I found very revealing of the mood of the European Union or the future definition of European foreign policy. Now, coming to the fisheries agreement, I think that is in this context that one can better understand what happened 4 or 5 years ago. When this agreement came about, and I was... I was there in many associated somehow to the activities of the UN. It was known, and nobody can pretend to be so naive as not to know, that by allowing access to Western Sahara territorial waters to these fishing fleets of Europe, this provision was in violation of some basic tenets of international law. It's something that dates back to time immemorial that, you know, the occupying power or authority cannot freely dispose of the natural resources of a territory under its control. I mean, this goes back almost to Roman times. There is plenty of legislation, the law of the sea, all over the place. There was an opinion of the UN legal advisor saying that this was not something that should be entertained. And yet the agreement went forward. And then, of course, we have heard there has been also subsequently an opinion of the legal office of the European Parliament. So the legal argument is known. It's illegal. This shouldn't have happened. And, of course, the only point that one has to hope for is that if and when this agreement is renewed with Morocco, there should be a clause excluding explicitly access Western Sahara territory and territorial waters from the agreement itself. By doing so, Europe would do nothing more courageous than follow the example of such a militant and revolutionary country as the United States of America. Routinely, the United States, in their agreement with Morocco on a number of commercial and other issues, requests a clause saying that whatever is provided here does not apply to the territory of Western Sahara. So on this one, the U.S. seems to be much more abiding to international law and obligation than Europe is. Now, the signs related to this agreement, I cannot read them because I don't sit here, and I know Parliament is very active on this issue. That one thing, however, worried me a bit, which I felt I should mention. I understand that the European Commission, as part of this process, has asked Morocco to inform it as to the use made of the income from the fisheries agreement. I also know that Parliament was intending to have a visit to the territory, but that's a separate matter. Now, to me, the very fact, or the mere fact, that the Commission should ask Morocco that question, to provide that information, is a mistake. On legal grounds, on political grounds, because you give Morocco a role of sort of interlocuteur valable, partner or responsible agent in this process, which it doesn't have. You legitimize somehow, de facto at least, a role that doesn't belong there. So even the question itself, in my view, is out of order. As to the substance, of course, I think the only judges as to whether this money or these resources are spent in the best interest of the Sahrawi people can be given by the Sahrawis themselves. And that answer has been seen in the streets of Smera or Layoun or Dakhla over the past 2 weeks. The protest originated also from the social, economic disaster, from the depression of human rights and so on. So there you have your answer. I think nothing more is needed for the European Union to decide not to renew this agreement in these terms. Last point, briefly. It's obvious that experience shows after 35 years that this kind of realpolitik, this practical way of going about this, doesn't work. So this is not just wrong in the sense that it's in disregard of the obligations of the international community to the Sahrawi people, but also it doesn't work politically. The problem does not go away by itself. It's an open wound. And that wound hurts the Sahrawis, hurts also the peace and security of the region. So here you have for Europe an opportunity to put into practice all this trite rhetoric, for instance, about conflict prevention. You know, there are books written by the European Union about one of the priorities in foreign policy for the nascent diplomacy will be conflict prevention. Here you have it. This is a typical case study in conflict prevention. If nothing is done to resolve peacefully, but also in the interest of international law, that situation, you have a brewing conflict there, which doesn't just relate to Morocco, Polisario, Algeria, the whole Maghreb. In fact, the security of the region is at stake. So here is a chance for the European Union to engage in some real work in conflict prevention. To do so, I'm almost finished. What's, I think, important would be to broaden the engagement of governments within Europe on this issue, to break a bit this monopoly, which is basically a Franco-Spanish in different ways monopoly. More countries need to be involved. One thinks of the Nordics, one thinks of Ireland, or I won't make a list, but there is a potential, especially in the light of the fact that the problem is there. The blood is on the streets. The human rights are trampled every day. So if there is a sense of responsibility, an interest in trying to move this forward, more countries have to engage. Countries maybe that don't have such a close association, historic, economics, and close interest and long history with this, but countries that can look at things from a bit of a distance, a more balanced approach that would take into greater account international legality. That's one. Second, there is a sort of good cop, bad cop routine developing in Europe, where you have parliaments, maybe the European parliaments, maybe national parliaments in Spain, in France, that are somewhat sympathetic, at least some of them. So you have these parliamentarians flying into Layoun on a little, plane and not being allowed off the plane by the Moroccans and then complaints and so on. So parliaments have this. But when it comes to governments, then the line is very pro-Moroccan, very conservative, very, on the negative side of this. So I think the challenge for parliamentarians in this forum or maybe in national parliaments is to move government policies, because they're not moving. And if governments don't move, parliamentarians can try and have a visiting mission every other week, but it will not really make much of a difference. Finally, I think that today there is an opportunity in New York. The Security Council will debate this matter, and I know that in a week or so there will be some decision made by the parliament here. My only appeal is to try to make it actionable. Something has to be said on which action should be taken. I mean, the time of advocacy, the time of making the legal point and so on, which is very important, is behind us. Now the time is to really move and force some proactive and concrete measure that will really bring this whole issue into the parameters of international legality and respect for human rights.
Grazie, Francesco. Aminato Haidar, c'est quelqu'un qui a été toujours parmi nous, de plusieurs fois. D'abord, il y a quelques années, dans le mandat précédent, quelques députés avons essayé de faire un voyage à La Yune. On n'a pu pas. Jamais on n'a pu visiter officiellement à La Yune comme parlementaire. Par contre, on a toujours pu visiter, par exemple, Tindouf, toujours qu'on a voulu, toujours qu'on nous a invités. Donc c'est déjà quelque chose d'important. La deuxième fois qu'on a essayé, en tout cas, de visiter, c'était dans un contexte complètement différent. Certains parlementaires nous sont déplacés à Lanzarote pour visiter Aminatou, parce que, quand elle était en grève des fonds, là, c'était un contexte vraiment différent. Elle avait un aspect différent, mais je suis très content qu'elle est aujourd'hui parmi nous. On a essayé, en tout cas, de faire une mobilisation aussi de la partie du Parlement, et on a aussi échoué, parce que la pression du Maroc, à la fin, a empêché de faire un texte, une résolution des soutiens à Aminatou. La troisième fois qu'on a pensé travailler et s'est inspiré avec Aminatou, c'était pour les prix Sakharov, parce que certains collègues, certains parlementaires avons proposé le nom d'Aminatou Haidar comme prix Sakharov. Nous pensions et nous pensons encore que représente d'une façon très claire l'esprit du prix Sakharov, et c'était pour ça que nous l'avions présenté. Malheureusement, d'autres l'ont eu, mais c'est pas contre ça qu'il faut parler, mais en tout cas, nous pensions qu'Aminatou, au moins, avait les mêmes droits que d'autres pour l'obtenir. Et aujourd'hui, elle est ici, parmi nous, dans un contexte qui n'est pas du tout agréable. Pas pour la présence, mais évidemment pour le contexte qui a lieu sur place. Quand on parlait plusieurs fois de l'accord de pêche, qui vient de le mentionner, Francesco, je trouve que l'erreur qu'a commis toujours la communauté européenne, c'est de considérer le Maroc comme, disons, la partie responsable et les managers, si vous voulez, des ressources sahraouies. Alors que légalement, ce n'est pas le cas. On le sait très bien. Et on ne comprend pas pourquoi, d'une façon récurrente, les institutions européennes, notamment la Commission et les conseils des États membres, considèrent que ces ressources qui appartiennent au peuple sahraoui doivent être gérées, doivent être, disposées par les Marocains. C'est pour ça que nous avions dit plusieurs fois, et je crois que les majorités maintenant au Parlement sont très claires, que nous n'acceptons pas un accord de pêche avec le Maroc si cet accord inclut les eaux territorial sahraoui. C'est si simple que ça. Quand nous avions voté l'année 2006 cet accord, certains avons voté pour l'exclusion de ces eaux. On a perdu et l'accord a été finalement signé, ratifié et a commencé à entrer en vigueur. Maintenant, nous avons une nouvelle opportunité de parler clair. Et c'est pour cela que le message d'Aminatou Haidar, à laquelle j'ai donc tout de suite la parole, s'encadre très bien dans cette discussion. Et s'encadre très bien dans la nécessité de réfléchir qu'est-ce qu'on veut faire comme Union européenne dans les cadres des pays voisins, avec lesquels nous voulons avoir des bonnes relations, mais sur la base, bien entendu, du respect des droits de l'homme. C'est pour ça que la présence d'Aminatou parmi nous, c'est toujours, et spécialement dans ces moments, absolument nécessaire, important. J'apprécie beaucoup. Merci Aminatou. La parole est à toi.
Chers amis, députés européens Ivo Vagen, Eva Julie, Raúl Romeva, Miguel Portas, Willy Meyer, Monsieur l'ambassadeur Francesco Bastagli, professeur Carlos Ruiz Miguel, honorable audience. Tout d'abord, Je remercie chaleureusement les organisateurs de ce séminaire très important pour m'avoir honoré et donné l'opportunité de pouvoir m'adresser à vous. Et à cette occasion, je tiens également à remercier très infiniment tous les eurodéputés et tous les groupes politiques qui m'ont soutenu durant ma grève de la faim que j'avais observée en 2009 en protestation contre mon expulsion arbitraire et illégale par les autorités marocaines à Lanzarote, aux îles Canaries. Je saisis également cette occasion pour les saluer pour avoir soutenu le groupe 17 défenseurs sahraouis des droits de l'homme arrêté en octobre 2009, juste après leur retour d'une visite humaine des campements des réfugiés sahraouis à Tindouf en Algérie. Je souhaite le grand succès et la bonne réussite à notre conférence et que ces travaux puissent contribuer à mettre fin à l'injustice exercée contre le peuple sahraoui. Mesdames et Messieurs, honorable audience, depuis 1975, l'État marocain continue toujours de modifier la carte démographique des territoires occupés du Sahara occidental en le peuplant par des milliers de civils marocains. La population sahraoui active s'est trouvée alors souffrir du chômage, alors que les emplois sont accordés en priorité aux Marocains résidant au territoire occupé du Sahara occidental. En signe de protestation contre les conditions socio-économiques précaires dans lesquelles ils vivent et contre les affres de la répression marocaine pratiquée à l'encontre du peuple sahraoui, réclamant son droit à l'autodétermination, un exode collectif volontaire de la population civile sahraoui vers une zone en dehors du périmètre urbain de la ville de Laayoune, capitale du Sahara occidental, a été enregistré depuis le 10 octobre 2010. C'est ainsi que des milliers de civils sahraouis ont quitté la ville de Laayoune pour dresser un campement qui était durant un mois surveillé par des hélicoptères et encerclé par un dispositif sécuritaire militaire important, et en particulier par des contingents de l'armée marocaine qui n'ont pas cessé de tabasser sauvagement les civils sahraouis tentant de regagner les campements, détruire leurs biens et imposer des restrictions quant à l'approvisionnement des campements en question en eau, nourriture et médicaments. Dans ces circonstances de quadrillage militaire, le 24 octobre 2010, le mineur sahraoui Elger Hinnajm, âgé de 14 ans, a trouvé la mort après avoir été criblé de balles par des éléments de l'armée marocaine. Les cinq jeunes sahraouis qui l'accompagnaient à bord d'un véhicule qui tentait de regagner le campement en question ont été gravement blessés par balles et sauvagement torturés, puis emprisonnés. Des convois de force de la police et l'armée marocaine venant des villes marocaines se sont vus affluer vers Laayoune depuis le premier jour de l'exode de la population civile sahraoui. Depuis la pose des premières tentes, la presse et la classe politique marocaine n'ont cessé de véhiculer un message de la haine et du chauvinisme contre les civils sahraouis qui ont choisi de protester pacifiquement au désert, en dehors de la ville de Laayoune. Le lundi 8 novembre 2010, à l'aube, l'armée marocaine, assistée par des hélicoptères militaires, a organisé un assaut violent pour démanteler le campement. Durant cet assaut violent, les bombes lacrymogènes et les canons lanceurs d'eau chaude ont été utilisés contre les civils sahraouis. C'était un massacre de la population civile sahraoui qui avait eu lieu. Des centaines de civils sahraouis ont été sauvagement tabassés par les éléments de l'armée marocaine et des forces auxiliaires et de la gendarmerie royale marocaine. Le bilan des victimes de ce massacre est très lourd. Des centaines de blessés, parmi eux des blessés par balles, et d'autres sont tout simplement heurtés par des véhicules de ces services. Alors que des centaines de civils sahraouis ont été arrêtés et torturés forcément dans un groupe, parmi eux sera déféré devant un tribunal militaire, alors que les autres comparaîtront devant la justice marocaine avec des chefs d'inculpation à caractère pénal. Des dizaines de civils sahraouis demeurent toujours disparus sans que leur sort ne soit connu. Mesdames et messieurs, après que l'armée marocaine ait semé la terreur à l'intérieur du campement, les blessés, les civils sahraouis, s'étaient évadés vers la ville de Lyon pour sauver leur vie. Les blessés parmi les évadés n'avaient pas pu accéder aux soins aux hôpitaux. Les tentes et leurs ameublements ont été détruits puis mis à feu par les éléments de l'armée marocaine. À l'arrivée des Sahraouis évadés à Lyon, des manifestations réclamant le droit à l'autodétermination des peuples sahraouis s'étaient éclatées dans tous les quartiers de la ville. Aidés par des milices de civils marocains, les autorités marocaines, avec toutes ses composantes, avaient sauvagement réprimé les manifestants sahraouis. Les habitations des civils sahraouis ont été saccagées par la police et les milices de civils marocains. Et leurs meubles ont été détruits. Des dizaines de véhicules appartenant aux civils sahraouis ont été détruits, puis brûlés par les milices de civils marocains. Les enfants sahraouis se trouvent traumatisés par la sauvagerie de l'intervention musclée des autorités marocaines et les milices des civils marocains. Actuellement, toute la ville de Lyon est contrôlée par les patrouilles de l'armée marocaine qui circulent dans tous ses quartiers et protègent les éléments de la police marocaine qui envahissent les habitations des civils sahraouis pour arrêter les jeunes sahraouis soupçonnés d'avoir participé aux manifestations. L'armée marocaine, utilisant actuellement des écoles comme casernes et lieux d'interrogatoire des civils sahraouis arrêtés, impose donc un quadrillage militaire total à la population civile sahraoui qui se trouve sous un vrai état de siège. Les journalistes et les observateurs étrangers demeurent toujours interdits de venir à Lyon pour voir de près la situation alarmante à Lyon occupée. Vu le quadrillage militaire, sécuritaire et médiatique que connaît la ville de Lyon et tous les territoires occupés du Sahara occidental, les défenseurs sahraouis des droits de l'homme se trouvent dans l'impossibilité de récolter toutes les informations sur les violations des droits de l'homme commises par les autorités marocaines à Lyon depuis le 8 novembre 2010. Mesdames et messieurs, par leur intervention berbère et leur encadrement des milices de civils marocains pour réprimer la population civile sahraoui, les autorités marocaines nourrissent le chauvinisme au sein de la population civile marocaine et alimentent malheureusement la guerre civile entre les Marocains et les Sahraouis, ce qui va certainement déstabiliser la paix dans la région. Malgré la montée du chauvinisme marocain depuis 1999 et la répression atroce qui l'accompagne, la population civile sahraoui a continué de mener une résistance pacifique et non violente dans les annales de la lutte des peuples pour exiger le respect de leurs droits légitimes. La population civile sahraoui faisait l'exception et n'a jamais eu recours aux actions violentes ou à caractère terroriste, ni contre les autorités marocaines, ni contre les civils marocains résidant au territoire occupé du Sahara occidental. Cette population civile a toujours préféré compter sur la légalité internationale et le soutien de la communauté internationale pour faire exiger le respect de ses droits légitimes. C'est une population civile qui a choisi une lutte propre et est porteuse d'un message de paix et de tolérance. Mais malheureusement, face à l'indifférence affichée par la communauté internationale quant aux appels des défenseurs sahraouis des droits de l'homme, l'appelant à faire des pressions sur le Maroc pour qu'il respecte les droits de l'homme au Sahara occidental, les jeunes sahraouis désespérés ont riposté violemment contre les autorités marocaines. C'est malheureusement de voir la jeunesse de mon pays recourir à la violence pour exiger les droits légitimes des peuples sahraouis. Ça sera également malheureux de voir la communauté internationale continuer d'afficher son indifférence par rapport à l'exigence de la résolution des conflits du Sahara occidental conformément à la légalité internationale. Dans ce cadre, j'appelle solennellement l'Union européenne à agir pour la mise en œuvre par l'ONU d'une commission internationale chargé d'enquêter sur les événements sanguinaires survenus le 8 novembre 2010 au campement de Gleimizik et Al-Ayoun et l'élargissement du champ des compétences de la MINURSO au volet de la surveillance de la situation des droits de l'homme au Sahara occidental ou l'attribution de cette compétence à un autre mécanisme de l'ONU. De même, et pour la protection des droits de l'homme au Sahara occidental, j'appelle l'Union européenne à mettre en œuvre les recommandations émises par les deux commissions ad hoc du Parlement européen qui s'étaient rendues au Sahara occidental en 2002 et en 2009. Et je l'appelle aussi d'envoyer une nouvelle commission pour enquêter sur le massacre qu'a connu la population civile sahraoui à cause de sa revendication au respect de ses droits légitimes. Mesdames et messieurs, le sous-sol du Sahara occidental est connu pour sa richesse en minerie et surtout les phosphates dont les réserves sont parmi les plus grandes à l'échelle internationale. En plus de cette richesse en minerie, le sous-sol du Sahara occidental est connu également pour son énorme potentiel pétrolier et autres hydrocarbures. D'autre part, les eaux territoriales du Sahara occidental restent parmi les eaux les plus poissonneuses du monde, où on trouve les espèces halieutiques les plus recherchées par les investisseurs de l'industrie agroalimentaire mondiale, et en particulier européenne, japonaise et russe. En plus du Maroc, qui est le principal exploitant de ses ressources naturelles et halieutiques, ces ressources se situent et continuent de susciter des appétits partout dans le monde. Des compagnies pétrolières, sociétés de pêche et groupements industriels de valorisation minérale, et en particulier ceux de l'industrie de fertilisants qui voulaient tirer profit de ces gisements de ressources naturelles et halieutiques du Sahara occidental. Contrairement aux principes fondamentaux du droit international applicable aux territoires non autonomes, à l'avis consultatif du bureau juridique du Conseil de sécurité saisi en 2002 sur la légalité des activités de reconnaissance et d'évaluation minérale et pétrolière au territoire du Sahara occidental sous contrôle marocain, au terme aussi de l'avis des services juridiques du Parlement européen en 2009, exigeant le respect du droit international pour la pêche de l'Union européenne vis-à-vis du Sahara occidental et bafouant les règles et les normes internationales régissant les activités économiques au territoire non autonome et en particulier l'exploitation des ressources naturelles et halieutiques. L'État marocain continue toujours de mener des activités économiques au territoire du Sahara occidental préjudiciables aux intérêts du peuple sahraoui. Ces activités économiques préjudiciables sont notamment l'offre à la signature du contrat de reconnaissance d'évaluation minérale et pétrolière passée avec des compagnies étrangères, l'exploitation systématique des richesses halieutiques et minières, le sable et le phosphate en particulier. Et cette exploitation illégale des richesses halieutiques et minières est illustrée par la commercialisation annuellement de millions de tonnes de phosphates qui sont exportés vers les pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie. La commercialisation annuellement des milliers de tonnes de sable qui sont exportés vers les îles Canaries, la présence dans les eaux territoriales du Sahara occidental d'une énorme flotte marine marocaine et étrangère opérant dans la pêche hauturière. Les activités de pêche dans les eaux territoriales du Sahara occidental, de navires battant pavillon des pays de l'Union européenne en application de l'accord de partenariat entre l'Union européenne et le Maroc. Accord de partenariat relatif à la pêche, exactement. Et la présence en campement le long des littorales sahraouis. Des milliers de pêcheurs marocains exerçant la pêche coutière et artisanale. En plus de la privation du peuple sahraoui de tirer profit de l'exploitation de ses ressources naturelles et halieutiques, cette exploitation va conduire certainement à l'épuisement des ressources minières et l'extinction des ressources halieutiques du Sahara occidental et générer inévitablement des problèmes d'ordre économique et écologique graves. Donatir à compromettre l'équilibre de l'écosystème marin et hypothéquer les intérêts économiques des générations futures au Sahara occidental. Mesdames et messieurs, concernant les négociations entre l'Union européenne et le Maroc sur le sujet de l'octroi d'un statut avancé, mon organisation, le CODESA, qui est le collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme, ne s'oppose pas par principe à une coopération renforcée entre le Maroc et l'Union européenne, mais appelle l'Union européenne à mettre en œuvre les recommandations émises par la commission ad hoc des parlements européens après sa visite au Sahara occidental en 2009, et en particulier celles relatives au volet des droits de l'homme, rôle des ambassadeurs exactement, et de la mission diplomatique de l'Union européenne au Maroc dans l'observation des violations des droits de l'homme perpétrées à l'encontre des civils sahraouis et à l'encontre des défenseurs sahraouis des droits de l'homme. De n'accorder ce statut préférentiel au Maroc, excluant nommément le Sahara occidental, que sous réserve des respects des droits de l'homme au Maroc et au Sahara occidental. Ne pas étendre son application au territoire non autonome du Sahara occidental. Pour les négociations entre l'Union européenne et le Maroc sur l'éventualité d'un renouvellement de l'accord de partenariat relatif à la pêche et vu les termes de l'avis des services juridiques du Parlement européen exigeant le respect du droit international pour la pêche de l'Union européenne vis-à-vis du Sahara occidental, le CODESA interpelle l'Union européenne qui est co-responsable de l'exploitation illicite des ressources halieutiques du Sahara occidental et lui demande de se conformer avec les principes du droit international concernant les droits du peuple sahraoui sur ses ressources halieutiques. S'abstenir d'autoriser ces navires à pêcher dans les eaux territoriales du Sahara occidental. Ne pas reconduire avec le Maroc l'accord de partenariat relatif à la pêche, excluant nommément le Sahara occidental. Que si ce dernier s'engage à respecter les droits de l'homme au Maroc et au Sahara occidental. Interdire aux compagnies relevant de leur jurisprudence de participer à l'exploitation des ressources naturelles et halieutiques du Sahara occidental. Demander aux compagnies qui participent déjà à cette exploitation de la cesser immédiatement. Vu les antécédents concernant la protection des ressources naturelles et halieutiques des anciens territoires non autonomes, à savoir le Nauru, le Timor oriental et la Namibie, accordés par l'ONU, il est d'une grande urgence que les organismes de l'ONU compétents prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la souveraineté permanente des peuples sahraouis sur ses ressources naturelles et halieutiques. L'ONU fasse savoir à la communauté internationale que l'exploitation des ressources naturelles et halieutiques par le Maroc est illégale. Le Conseil de sécurité attribue des compétences, des contrôles des ressources naturelles et halieutiques à la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental MINURSO ou attribué sous contrôle à un mécanisme de l'ONU. Mesdames et messieurs, bien que l'État marocain viole d'une façon grave les dispositions de la 4e Convention de Genève relative à la protection des civils lors des conflits armés, les violations graves des droits de l'homme commises par l'État marocain à l'encontre des civils sahraouis impliquent également la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et la communauté internationale, non seulement à garantir et à maintenir la paix et la sécurité internationale et à protéger les principes de la justice, mais à exercer des pressions sur l'État marocain pour le respect des droits de l'homme au Sahara occidental. Pour cela, et afin de garantir une protection internationale pour les civils sahraouis, et les prémunir contre d'éventuelles violations qui peuvent être commises par l'État marocain, je saisis ma présence parmi vous pour vous appeler à adhérer au mouvement international qui s'élargit au fil des années, interpellant l'ONU pour qu'elle contribue efficacement à la protection des civils sahraouis dans les territoires occupés du Sahara occidental par l'envoi urgent, d'une part, d'une commission de l'ONU pour enquêter sur les dernières violations des droits de l'homme commises par l'État marocain à l'encontre des civils sahraouis et l'élargissement, d'autre part, du champ des compétences de la MINURSO au volet de la surveillance de la situation des droits de l'homme au Sahara occidental ou par l'attribution de cette compétence à un autre mécanisme de l'ONU. Mesdames et messieurs, les autorités marocaines continuent avec persistance de commettre des violations graves des droits de l'homme à l'encontre des civils sahraouis au territoire occupé du Sahara occidental. L'État marocain s'est délibérément abstenu à ouvrir des enquêtes ou qu'elle les a ouvertes mais sans déclencher des poursuites judiciaires, conformément aux dispositions imposées par les pactes et les conventions internationales des droits de l'homme qu'il a signées et ratifiées. C'est ainsi que les responsables sécuritaires marocains impliqués dans ces violations bénéficient toujours de l'impunité totale. Ils ne sont jamais traduits en justice. Bien qu'il y ait un ensemble de considérations juridiques, humaines et morales rendant la mise en œuvre des principes d'interpellation et de poursuite judiciaire nécessaires et possibles pour la détermination de la responsabilité pénale et civile dans le cas où les violations ont été commises par les personnes ou des entités officielles ou non officielles, ou commises avec son consentement. Il est à noter que le droit international humanitaire se trouve constamment violé par les autorités marocaines et en particulier les clauses interdisant l'impunité. Pour cela, j'appelle l'Union européenne à exercer pression sur le Maroc pour qu'elle respecte ses conventions internationales et particulièrement les clauses et directives concernant les droits de l'homme et les défenseurs des droits de l'homme impliqués dans le statut de l'Union européenne et qui sont signés par le Maroc. Mesdames et messieurs, le Maroc, avec en particulier l'appui de certaines puissances mondiales, affiche toujours son refus de se conformer à la légalité internationale et permettre ainsi au peuple sahraoui de jouir de son droit à l'autodétermination. C'est pour cela que j'appelle l'Union européenne et tous les groupes au sein du Parlement européen et sollicite leur soutien pour exiger le respect des droits légitimes du peuple sahraoui et en particulier son droit à l'autodétermination. Enfin, je tiens au nom de tous les membres de mon organisation, le CODESA, à vous exprimer ma profonde gratitude et ma haute considération. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci Aminatou. Ok, comme prévu, on est vraiment dans un problème de temps. Alors, je fais une proposition, si vous en êtes d'accord. On ferait, si vous voulez, 5-10 minutes de questions, disons, sur le sujet, aussi parce qu'il y a l'expert qui peuvent nous accompagner, et même Aminatou. Et puisque nous savons aussi qu'il y a certains médias qui ont intérêt à faire des questions plus concrètes sur la situation là, après ces 10 minutes, ces 5-10 minutes, s'il n'y a pas de questions, on fera, disons, un deuxième tour, c'était des questions plus, médiatiques, si vous en êtes d'accord. Est-ce que, par un sentiment, je vois qu'il y a personne qui s'oppose, ok, alors on verra comme ça. J'avais demandé de nous faire arriver certaines questions pour mieux organiser ça. J'en ai déjà une, c'est de Marilyn Drouk, je ne vois pas, ah voilà, là, vous voulez que je la lise moi-même? Ok. Je voudrais poser la question de la reconnaissance de la race, République Sahraoui démocratique. Le pays qui l'ont reconnu sont tous des pays ex-colonisés. Aucun pays colonisateur n'a reconnu la race. Aussi longtemps que nous aurons un peuple, un territoire, pas de gouvernement reconnu par l'ONU, par l'Europe, est-ce que nous pourrons espérer une solution? Est-ce que la reconnaissance de la race n'est pas une prioritaire? Je ne sais pas si... je crois que c'était une question que les trois peuvent répondre. Donc, je ne sais pas si peut-être Carlos, Francesco, et sinon Aminatou. En fait, after. Francesco. Francesco?
Et oui, bien sûr, ça serait une question prioritaire, mais c'est tout à fait une question politique. Évidemment, la plupart, ce n'est pas seulement des pays d'Afrique, il y a des pays d'Amérique latine, mais évidemment, il n'y a aucun membre de l'Union européenne qui reconnaisse la République démocratique du Sahara. Ça, c'est assez curieux. Et aussi parce que j'ai travaillé au Kosovo, par exemple, c'est presque le même nombre des pays qui reconnaissent le Kosovo que les pays qui reconnaissent la République démocratique saoudite. Mais on voit la différence politique, le poids d'être reconnu, disons, par l'Allemagne plutôt que d'autres pays. Mais en tout cas, oui, c'est une priorité, mais c'est une chose sur laquelle on ne peut pas beaucoup faire. C'est l'Union africaine surtout qui soutient, tel que groupe d'État, la cause du gouvernement en exil. Et ça serait très positif s'il y aurait des pays européens, par exemple, qui prendraient l'initiative de reconnaître la République, sûrement.
Peut-être c'est la souffrance qu'ils ont déjà vécue qui les a poussés à reconnaître la RAST pour un geste de soutien humanitaire plus que politique.
Emilio Méndez del Valle me había pedido Emilio Méndez del Valle, il est ambassadeur espagnol et actuellement membre du groupe socialiste ici au Parlement européen.
Thank you. Excuse me if I speak English, because I speak English not very well, but better than French, Amileto.
¿Puede hablar español?
Dice que puede hablar español, pero...
No, gracias, pero...
No, pero ella le gusta más el español, sí, el inglés.
Bueno, we'll do something. I will say that in Spanish first, and I will do it at the same time in English. Amileto, si estoy bien informado, usted, al entrar aquí, ha hecho unas declaraciones a la prensa. Yo soy Emilio Menéndez del Valle, efectivamente, miembro del Grupo Socialista. Ha hecho usted unas declaraciones a la prensa, a los medios, diciendo que los socialistas españoles en este Parlamento están bloqueando el lanzamiento de una resolución a favor del Sáhara Occidental. Permítame que le diga esto. El Grupo Socialista en este momento está reunido en Budapest, porque hemos celebrado la reunión en Budapest, y hoy precisamente el Grupo Socialista se ha reunido para tratar este tema, el comité político del grupo, y se ha acordado allí el no solamente no bloquear, sino favorecer la presentación de una pregunta oral con resolución en este Parlamento. Y simplemente ahora mismo en Budapest se están discutiendo los términos de tal el contenido concreto. So very very quickly in English. What I'm saying to Aminetu is that in this very moment the socialist group is discussing the terms of an oral question with resolution which we intend to present in this parliament. I'm saying that to her because apparently, when she entered this room, she made a statement to the media saying that the Spanish socialists are blocking a resolution in favor of the Sahara, of the Western Sahara. Thank you very much. Muchas gracias.
Well, I'm not a politician. I am a professor. I come from Galicia in Spain. And, well, it's a very good news. And I am very glad to hear that. But
about this parliament, I'm not speaking
yes,
about Spain,
but,
speaking about this parliament.
I mean, it's not easily understandable that Spanish socialists says one thing here and do not dare to say another thing in Spain or Galicia. In Galicia, the Nationalist Party and the Partido Popular supported a resolution condemning the facts, and only the Socialist Party rejected to pass this resolution. In the Cortes Generales, in the National Parliament of Spain, also Socialist Party, blocked a resolution condemning this. So I repeat, this is a very good news, but I hope that in your party you will have a little bit more of consistency. Thanks.
Me, Raúl, I have to answer.
Yes.
I beg your pardon. So, thank you for your explanation. Perhaps it's a question of time, you know, and we all learn very easily sometimes, very difficulty sometimes. But I'm speaking about the attitude of the Spanish socialists in this parliament,
yes,
who are in Budapest in this very moment. I'm not there because it's a pleasure to be here in this meeting, apart from other topics I have to discuss. But I'm referring only to this point which I said, just that. So give time to time. Thank you.
Oui. Oui, j'ai fait ces déclarations et j'ai fait ces déclarations avec beaucoup de douleur parce que moi, je respecte beaucoup la grande base de solidarité espagnole et surtout ce sont la majorité ce sont des socialistes. Mais aussi, je suis victime qui a vécu les affres de la répression. Je suis une maman qui souffre. Aujourd'hui même, la fête de l'Eid al-Kbir, la fête la plus sacrée pour les musulmans, moi je suis contraint d'être ici loin de mes enfants. C'est comme si c'est la même chose qui s'est passée l'année dernière quand j'étais en grève de la faim. Et ça c'est à cause des socialistes, du gouvernement de Zapatero, qui n'a même pas pu condamner les actes violents et le massacre contre un peuple qui le gouvernement espagnol assume totalement la responsabilité de ce qui se passe contre mon peuple. Moi, je suis crédible et je suis fiable. Vous avez lutté contre toutes les résolutions qui sont en faveur de la question des Sahara occidentales. Hier même, tout le groupe des socialistes en France, ils ont voté, ils ont lutté contre une résolution en faveur des Sahara occidentales en France. Alors, ça, ce sont des données concrètes. Je le dis, mais je le dis avec de douleur. Avec de douleur parce que j'ai beaucoup d'amis socialistes. Mais je le dis, ça y est, je ne peux plus cacher la réalité. J'ai passé 32 jours en grève de la faim. J'ai jamais dit aucun mot quant au parti socialiste en Espagne. Mais maintenant, ce sont des milliers de Sahraouis, des milliers assassinés, des Sahraouis et massacrés. Et l'Espagne dit, le gouvernement socialiste, pour ne pas dire l'Espagne, ce sont des peuples qui ont des principes quand même, et je salue d'ici, de cette tribune, je salue les efforts, les grands efforts qui sont déployés par les peuples espagnols et qui n'ont rien à voir avec l'attitude de la honte du gouvernement de José Rodríguez Zapatero. Je m'excuse, monsieur, moi je suis très franche, je suis militante des droits de l'homme, je n'ai pas d'intérêt, je n'ai pas avec n'importe quel gouvernement, je vais dire la réalité.
I would like to make my personal comment on the question of how European countries are behaving, and I was struck with your question, and it is well founded that among the countries who have recognized the right of Sahrawi people to have their own sovereign state, that there is no European country. I think it would be really time that European politics would turn the page and that there would be not only two or one country who is showing a certain respect for the human rights issue and international law in the situation like Western Sahara, but that would be a main stream attitude of European politics. We have a chance now when we have a full-fledged European Parliament with, after the Lisbon Treaty, and we can start influencing the European politics and maybe even shape a common European foreign policy and security politics, which we don't have right now. So I would put my hope into the project that we slowly try to persuade some more countries in European Union, maybe a group of countries who would take a risk to be honest and to have the respect for international law and human rights as its priority. So let's do it, and let's put the pressure on the national parliaments and national governments of European Union in order to undertake this step. As I told, I never considered it as a step against a country, against even Morocco, but for the respect of the international law. And From this perspective, Morocco is wrong. The country is wrong. It is in the breach of all rules of international law and on the rules of human rights. So I would like to inform you that there are now several initiatives in these couple of days in different groups. I don't know exactly. I am very happy with the news that the socialists are considering the resolution on Western Sahara. My group, ALDE, is discussing it very seriously. We have a draft resolution which I think can satisfy the most of the expectations which have been expressed today. And I'm pretty sure that after what happened in the tents of Western Sahara 10 days ago, it is a push. Maybe it is said that these kind of events are needed sometimes to bring forward an issue. But I think that it has contributed to the readiness to move forward with this question and to cut this thread of hypocrisy when it is about the problem of Western Sahara. Thank you.
Merci beaucoup. Je suis l'assistant de M. Sosa Wagner, le membre du parti Union Progrès et Démocratie de l'Espagne. C'est juste pour dire que on vous remercie beaucoup pour être ici et pour dire tout ça que vous avez dit, que nous sommes tout à fait d'accord. Mais dans les médias et les journaux à l'Espagne, c'est ce que nous avons lu, et il y a maintenant un piège, une trappe. Qui disent que le problème c'est que si on déstabilise Maroc avec cette affaire de Sahara, et peut-être dans le futur on aura un état faible, oui, et que peut-être sera Al-Qaïda qui va être là, et tout ça. C'est comme un blague. Et je crois que les Polisario et les peuples saharaouis fait le travail que c'est la Union européenne qui devra faire, que c'est lutter pour la démocratie dans le Maroc. Parce qu'un Maroc démocratique jamais empêchera les peuples saharaouis de suivre son propre chemin, même s'il veut être dans le Maroc ou être indépendant. Je ne sais pas si mon français n'est pas très bon, je ne sais pas si m'exprimer bien. Merci beaucoup.
Je serai très brève, mais je voulais quand même qu'une députée française prenne la parole pour dire qu'il y a quand même des politiques en France qui soutiennent le peuple sahraoui. Nous ne sommes pas nombreux, mais je voulais quand même le dire. Bon, j'appartiens au groupe des Verts, voilà, donc
Ok, merci beaucoup. Laissez-moi simplement finir par dire que dans la salle, il y a des représentants de différents groupes, c'est-à-dire des Lagoué, des groupes non inscrits, des Verts, des ALDE, même des socialistes libéraux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'ISR. s'il y a quelqu'un qui... Non, je ne vois pas, mais en tout cas, la grande majorité. Donc, c'est tout à fait important que cette pluralité soit réunie maintenant pour dire ça. Aussi, à Emilio, tu sais, les problèmes, c'est qu'on a essayé plusieurs fois de faire un message. Et c'est grave qu'on ait dit attendre à ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé, pour réagir. Ça, c'est le problème. On aurait dû réagir plus fort et plus dur avant que ça se passe. C'est pour ça qu'il faut quand même reconnaître qu'on n'a pas bien fait les choses. Disons-le comme ça. Disons-le comme ça.
J'ai une question maintenant.
Okay. Ah, à qui? Ah, en général. Okay. Parce que, ok. Je sais qu'il y a certains médias qui voulaient faire des questions. Est-ce que pour les représentants du média, vous voulez continuer dans ces formats ou vous voulez qu'on fasse, disons, un approche après? Parce qu'il y a, il y a... Après, ok. Ok, ok, d'accord.
Donc, oui, la question, c'est l'ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur Lambadour, non?
Landaburu.
Landaburu, à Rabat, il a fait des déclarations, c'est, je me rappelle, en mai, à Rabat, en disant que l'accord de pêche avec le Maroc est tout à fait légal. Il a dit même, et ça c'est grave, qu'il y a des associations sahraouies de droits de l'homme qui ont dit que oui, que si est légal. Moi personnellement, comme présidente d'une organisation non autorisée, bien sûr, le CODESA, collectif des défenseurs sahraouis de droits de l'homme, je lui ai envoyé une lettre, je me rappelle le 8 ou bien le 9 juillet. Et jusqu'à l'instant, j'attends toujours sa réponse. Est-ce que vous avez une réponse pour me convaincre, moi, comme défenseur des droits de l'homme, que ça, c'est légal? Alors, moi, je ne peux plus croire aux principes de l'Union européenne. Pour moi, ce sont devenus comme des slogans. Ça, c'est malheureux de le dire, moi, comme défenseur des droits de l'homme. À plus forte raison, les jeunes qui n'ont pas une telle culture sur les droits de l'homme, qu'est-ce qu'ils vont croire et qu'est-ce qu'ils vont dire à propos de l'Union européenne et ses principes et sa structure?
Mais on peut faire une question écrite sur ça.
Oui, merci beaucoup.
Non seulement sur l'accord, mais pour demander pourquoi l'ambassadeur n'a pas répondu à une question de quelqu'un qui est d'une organisation de défense des droits de l'homme et qui a été nommé, qui a été parmi les nominations du Parlement au prix Sakharov. Donc c'est tout à fait de principe qu'il doit répondre. Donc on peut demander pourquoi il ne l'a pas fait.
La semaine prochaine, on aura un débat, donc il faudra quand même nous rappeler nous-mêmes de ces points-là. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Évidemment, Nivo, thanks a lot for your hosting this seminar. Thank you all of you.